Eh bien, bonsoir à tous. Pour ce nouveau numéro de Quartier Populaire, nous recevons le sénateur Alain Houpert. Bonsoir Alain.
Bonsoir. Bonsoir Didier.
On va se tutoyer, puisqu'on se tutoie dans la vie, ça sera plus naturel et on ne va pas faire semblant. Avec mon ami, mon confrère, mon compère, Harold Bernat. Bonsoir Harold.
Bonsoir Didier, bonsoir Alain.
Bonsoir Harold.
Et toute l'équipe de QG, bien sûr, qui est à la modération, au chat, au tweet, et qui nous fera remonter les questions et qu'on s'efforcera de prendre, voilà, pour que vous ayez un peu un tour d'horizon. Alors, je vais présenter brièvement Alain Houpert, même si on ne le présente plus. Nous sommes bien élevés, donc on va le faire. Alain Houpert, alors, c'est un sénateur Les Républicains. J'allais dire, il est un peu atypique. Nous, on s'est rencontrés à l'occasion du Covid. Il ne devrait pas être atypique. Il devrait être l'archétype, en fait, du sénateur qui se bat pour l'intérêt général. Et on s'était rencontrés à l'occasion du Covid, puisque dans la vie, il est radiologue, et pour échanger sur des questions de santé publique, de liberté publique aussi, et de cette formidable et incroyable ingénierie sociale qui a été mise en œuvre, qui avait commencé avec les Gilets jaunes, qui s'est poursuivie avec le Covid. Et donc, Alain, toi, tu avais pris des positions sur l'hydroxychloroquine, par exemple, sur la liberté de prescription, sur la médecine de ville, sur le Rivotril. Bon, tu avais dit ce que tout médecin, d'ailleurs, aurait dû dire hein, à l'époque. Moi, je faisais une émission quotidienne à l'époque sur Sud Radio. Comme on en avait parlé, beaucoup de médecins m'appelaient, beaucoup étaient embêtés, étaient empêchés de parler. Donc voilà, et puis tu as pris aussi des positions assez courageuses pendant la réforme des retraites, je m'en souviens très bien, notamment sur l'âge légal de départ à la retraite. Pour toi, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cotisation, de comment ça fonctionne, quelle est la répartition, comment on opère les péréquations, etc. Donc je dirais atypique, non, en vérité, il y a une adéquation, ce qu'on essaie de faire nous à Quartier Populaire et plus largement sur QG, d'essayer d'ouvrir un peu l'angle, le prisme, pour ne pas se regarder le nombril et être dans le bon sens, hein, c'est-à-dire défendre ce qui nous paraît être la bonne voie pour le peuple français au-delà des clivages. Voilà pour la présentation. Alors c'est vrai qu'on est un peu impatient de t'entendre, parce qu'on vit depuis quelques jours une accélération de l'histoire. Hein. Les premiers ministres font des mois, puis des semaines, et maintenant des heures, quoi. Le prochain, ce sera peut-être des minutes, puisque c'est un peu un vaudeville, hein, à peine nommé, déjà sorti, des démissionnaires qui démissionnent, des démissionnaires qui entrent. Des conciliabules, on ne sait pas trop ce soir, c'est complètement flou, on ne sait pas trop où on en est, la France n'a pas de budget, la France n'a pas de majorité, la France n'a pas de certitude, la France est déclassée hein, par les agences de notation, il y en a déjà une, il y en aura sans doute une autre. Les usines, pas les usines fleurissaient, mais en fait, c'est la désertification totale, la Startup Nation. Ne fonctionne pas, les plans sociaux se multiplient, les services publics se réduisent comme peau de chagrin, et nous avons à la tête de tout ça un président de la République qui n'est pas véritablement, on va dire, à la hauteur de sa fonction, et qui se met en scène sans arrêt dans un avion, sur les quais de Seine, la solitude, le combattant, le boxeur. Un peu comme le Duce, tiens d'ailleurs, Mussolini, bon, je dis ça pour l'histoire hein, et pour simplement la photographie, hein, qui se mettait en scène un peu dans tous les sports, hein, au ski, à la montagne, à la mer, en faisant de la boxe, en lutteur. Donc nous avons notre Duce, et bon, pour le Duce, ça s'est mal fini. Alors, on ne le souhaite quand même pas cette fin dramatique, mais pour toi, quelle serait au stade où on en est, parce qu'on va essayer de garder notre raison, notre sang-froid et de raisonner, hein, Parce que je voudrais dire très, très brièvement que bon, nous sommes quand même un certain nombre à être choqués par l'entourage immédiat de M. Macron, qui a toujours été dans la géographie. Et là, les rats quittent le navire là, depuis que Gabriel Attal a donné le la hier soir. C'est un festival de petitesse, quoi. Bon. Donc, on va essayer de garder le niveau, de garder notre rang. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelle serait la meilleure situation pour sortir la France de l'ornière et pour renouer un peu, je ne dis pas avec l'espoir, mais avec une vie à peu près normale dans cette démocratie bien malade?
Merci Didier de m'avoir présenté comme quelqu'un d'atypique. Bon, tu as parlé de la période Covid où je me suis exprimé en tant que sénateur, pas en tant que médecin. Hein. Nous sommes dans une période complètement atypique. On n'a jamais connu ça. On est dans un cirque. Hein. On est dans un drame parce que les Français sont. Depuis 7 ans, les Français sont là, fatigués. Je dirais qu'ils sont humiliés. Souvenez-vous du président Macron à la gare du Nord, quand il dégriffait cette gare, il disait que ici on côtoie des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Ça exprime qui est ce président de la République, quelqu'un qui se considère dans des très 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 hautes sphères, mais quand on est dans les très hautes sphères, j'aime pas dire on, mais quand quelqu'un est dans les très hautes sphères, il oublie la base. Et la base, c'est le peuple français. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Macron? Il a fait une France appauvrie, une société divisée, puis une démocratie complètement brisée. Hein. Tu as parlé des crises qu'on a vécues jusqu'à présent. Il y a une grande crise qui est le manque de liberté d'expression. Hein. Et on le voit actuellement avec le scandale de France Télévisions hein, et de l'ARCOM, où le Sénat a posé vraiment une question sur la manière dont est gérée France Télévisions, à l'ARCOM, au président de l'ARCOM, et plusieurs sénateurs se sont déplacés. On va certainement faire une commission d'enquête. Donc, on a des médias mainstream qui sont financés par l'État, qui représentent un peu, qui ressemblent à la parole unique, la parole publique, la parole d'État, je dirais la Pravda, quoi. Hein. Donc, heureusement qu'il y a des réseaux d'information comme les réseaux sociaux ou des médias qui ne sont pas mainstream et qui sont éveillés. Hein. Donc, merci de m'avoir invité à cette émission parce que vous êtes une émission éveillée et c'est important d'élever les gens, d'élever. Victor Hugo disait quand on éduque un enfant, on gagne un homme. Hein. Je pense qu'il faut que les Français aient leur libre expression et la liberté d'aller chercher l'information. Il y a une obsession actuellement. Dans les gouvernements qui sont succédés, de contrôler l'information, hein, vous vous souvenez? Et ça, c'est dangereux. Quand on contrôle l'information, eh ben, on aboutit à une dictature. On est proche d'une dictature, hein, parce que celui qui l'ouvre, on lui demande de la fermer, on lui fait des procès, on lui fait des procès bâillons. Beaucoup de gens ont été, moi j'en ai été victime, mais je me suis jamais mis en victime ni en persécuteur. Voilà, c'est l'histoire de ces gouvernements qui se sont succédés. Ce sont des gouvernements qui ont donné. J'ai du mal à m'exprimer parce que c'est quand même, on vit un cauchemar éveillé. On est dans un cauchemar éveillé et on se demande quand est-ce que ça va finir. Le matin, quand vous vous levez, quand vous regardez La télévision, quand on regarde les informations, chaque fois on tombe de sa chaise, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, donc on est dans une France ruinée, une société divisée, puis une démocratie qui traverse la pire crise politique depuis 1940. Voilà, donc on revient un petit peu aux heures noires qu'on a connues. Hein, donc, quand vous voyez les grands fidèles, comme Attal qui tire à boulets rouges sur la statue du commandeur, ou monsieur Édouard Philippe qui demande au président de démissionner, pourquoi? Pour prendre la place, hein, la place. Mais souvenez-vous qu'Édouard Philippe, c'était l'homme de l'augmentation du fioul, c'était l'homme du 80 km/h, c'est l'homme qui a créé les gilets jaunes, c'est l'homme
Il a fait éborgner.
ouais, qui les a éborgnés. 15 personnes éborgnées, des gens très maltraités. C'est l'homme aussi, je me souviens de cette image devant l'incendie de Notre-Dame, où on voyait le président et le premier ministre en train de rire. C'est un peu indécent. Voilà. Donc, on est dans une course à l'échalote, où chacun veut prendre la place de l'autre, où chacun veut être le calife à la place du calife. Donc, actuellement, le président de la République, c'est Emmanuel Macron, et qui utilise une faille de la Ve République, c'est-à-dire que on ne peut pas le faire sortir. On ne peut pas le destituer, c'est très difficile. Il peut rester, mais comme il n'a pas l'honneur du créateur de la Ve République, le général de Gaulle, qui en 1979, quand il a été désavoué après le référendum,
69, oui.
69, pardon, c'était pour voir si tu suivais, en 69, eh bien, le général est parti. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'honneur prévalent parce que quand on est président de la République, on doit être le père du peuple. Hein? Souvenez de l'expression le petit père du peuple, mais on doit être un peu le père du peuple et puis agir en bon père de famille et s'effacer quand tout va mal, quoi. Voilà. Et
Alors,
être.
avant d'aller dans la mécanique et d'essayer de modéliser un peu hein, les hypothèses, parce qu'on en est là aujourd'hui, on y verra sans doute un peu plus clair demain, quoique on ne sait pas, hein, jusqu'à présent, chaque fois on devait voir plus clair et on s'est enfoncé dans le brouillard. Mais alors, Harold, alors justement, avant d'aller là-dedans, c'est vrai que ce qu'on est en train de vivre depuis 8 ans, là, et même avant un petit peu, mais surtout depuis que M. Macron est président de la République. Avant, quand il y avait des présidents, certains étaient élus, ce n'était pas notre camp, ce n'était pas notre tasse de thé, Hollande, Sarkozy, Chirac, machin, etc. Bon, mais il y avait quand même plus ou moins un respect de la fonction, il n'y avait pas cette déliquescence totale. Et là, on se rend compte, il y a un nouveau moment de vérité, je ne sais pas ce que tu en penses, Harold, c'est pour ça que j'en parlais en préambule, c'est que finalement, je ne dis pas que M. Macron ne mérite pas ce qui lui arrive et qui. Que soudainement il faudrait le plaindre et sauver le soldat Macron. Non, mais on se rend compte presque que il est bien mieux que tout son entourage. J'ai entendu encore, on a parlé des deux là, mais Valérie Ayé, enfin, je veux dire que la bécassine, excuse-moi, là j'assume mes propos, la bécassine absolue qui vient dire que Monsieur Macron ça suffit, ou Monsieur Estrosi qui vient taper sur Monsieur Macron. Et là on se dit finalement. Capter toute l'attention, c'était la catharsis, hein. On allait se purifier en tapant sur Macron, mais on s'aperçoit que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus vaste, et qu'il a tout bousillé en profondeur, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Harold?
Déjà, le constat d'Alain, il est terrible. Il faut quand même s'arrêter 2 minutes là-dessus. C'est un constat, c'est un bilan là qu'on est en train de faire. Hein. C'est le bilan de toutes ces années. Je disais la dernière émission qu'il faudrait faire le verbatim du mépris social de M. Macron. Il y en a des pages. Il y a eu d'ailleurs une BD sur la République justement qui a été faite au tournant des deux quinquennats et qui faisait en fait la reprise de tout ce qu'il y a, parce qu'on oublie, on a tendance à oublier un petit peu tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prononcé, le mépris social hein, qui a été celui de M. Macron. Pour faire écho aussi à ce que dit à Alain, il a quand même pris la parole très récemment, c'est quand même très inquiétant, hein, je rappelle cette vidéo, il n'y a pas d'ailleurs le drapeau français derrière lui. Hein. Et il dit, nous sommes imaginés un espace public où il y a des individus cagoulés, hein, une grande place, voilà, ils campent le décor,
En
prendraient la
Allemagne.
parole et diraient, voilà, et diraient des contre-vérités. Et il décrit en fait une immense fatigue démocratique. Donc, c'est quelqu'un qui finalement utilise immense fatigue démocratique, on pourrait le dire, mais il le fait avec une malversation terrible et un discours qui est très inquiétant. Je vais vraiment jusque-là. C'est un discours qui est très inquiétant. Il nous dit, en fait, il y a des voix qui prétendent dans le peuple cagoulé, masqué, dire des choses sans avoir la légitimité pour le faire. C'est une menace, en fait. Il est en train de menacer la liberté d'expression. C'est très clair, en fait. Il faut le prendre au pied de la lettre. Hein, il menace, en fait, des oppositions séditieuses de vouloir renverser le pays. Hein, on est dans ce narratif-là. Et dernière chose, et ensuite je reviens à ta question très rapidement, il ne faut pas oublier quand même, avant l'élection de M. Macron, les gens qui aujourd'hui lui tirent dessus, lui tiraient dessus. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a une sorte là hein, d'état de grâce, mais en fait, les mêmes, on les retrouve au début et à la fin. C'est une sorte de parenthèse, à mon avis, pas du tout enchantée, assez catastrophique, d'un effondrement du politique. Moi, c'est ce que j'avais diagnostiqué en 2017, hein, c'est un effondrement du politique, de la chose politique. Là, on a Alain Houpert qui est, il est LR. Moi, j'ai pu critiquer LR, PS, etc. Ce n'est pas la question. La question, c'est l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui. On en est là. Et c'est ça. Et c'est faire politique ensemble. Hein, certains m'ont dit, oui, mais c'est LR, etc. Mais ce n'est pas l'objet. Là, on n'en est plus là. On doit défendre la République. On doit défendre, moi, ce que j'appelle une République sociale et démocratique, qui a des partisans de tous les bords, mais qui veulent sauver quelque chose là. Parce que là, on est un peu à la croisée des chemins. Soit on continue dans cette direction, et c'est un effondrement qu'on va payer très très cher en tant que citoyen, mais sur la scène internationale, sur nos finances, sur notre économie, et de façon générale. Soit il y a un sursaut. Et le problème, c'est que je ne crois pas au sursaut de M. Macron. Je n'y crois pas du tout. Hein, imaginez qu'il démissionne, il ferait pire que Hollande qui n'a pas pu se représenter. Ce serait une humiliation. Enfin, il faut comprendre le personnage. C'est incompatible avec ce qu'il est. Vraiment, c'est incompatible. Alors, j'ai deux questions pour Alain, puisque vous le savez, il y a des questions qui reviennent, évidemment, qui montent du chat. Donc, Pierre Siminck, pensez-vous qu'Emmanuel Macron vient de détruire la Ve République? Donc, c'est une question pour Alain. Si oui, par quel processus passer à la Sixième? Donc, ça, c'est sa question. Et la deuxième question. Quel serait, d'après vous, le scénario, donc la dissolution, l'article 16 ou la démission? Voilà, donc les deux questions, les deux premières questions. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron vient d'en finir avec la Ve République? C'est une question qui revient, qui est récurrente. Est-ce que c'est une crise, en fait, qui précipite un changement institutionnel profond? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, une petite idée du scénario possible.
Oui, vous parlez, Harold, de la dissolution. Il a dissous l'Assemblée nationale, mais il a aussi dissous la Ve République. Hein, c'est-à-dire que il a montré la faille de la Ve République. La Ve République, elle était faite pour le général de Gaulle. Je suis gaulliste, mais je vais pas rentrer dans les vieux discours en disant. Je suis dans l'héritage du gaullisme, voilà. Et donc, la Ve République, elle a été faite pour un homme fort, hein. Un homme qui sait reculer. Souvenez-vous, un de ses successeurs, François Mitterrand, il a reculé quand le peuple n'était pas d'accord avec la réforme sur l'éducation nationale et sur l'école libre. Il a reculé. Jacques Chirac a reculé devant le CPE de M. Villepin. Donc on avait des hommes forts. Et vous parliez de M. Hollande. M. Hollande, il n'a pas donné l'occasion de reculer, mais on voit que Macron s'accroche comme une moule à son rocher. Parler de démission, mais la démission, c'est admettre que le sommet L'homme au sommet n'est pas en contact avec la réalité. Et ça, c'est grave. Parce que le président, il est le représentant du peuple. Le problème de l'élection présidentielle, c'est, en mathématiques, on appelle ça le principe de Condorcet. C'est-à-dire qu'on préfère un tel à un tel. Donc au deuxième tour, on n'a pas les deux meilleurs candidats. Hein, donc c'est ça le problème. Et on l'a vu depuis Mitterrand, le Front National, il a été créé pour diviser. Et quand le Front National était à 15%, ça arrangeait tout le monde, ça arrangeait la droite, ça arrangeait la gauche. Mais maintenant, quand il est à 25-30%, ça n'arrange plus et ça fait plus rigoler les gens. Donc, Monsieur Macron, il a tenu grâce à quoi? Grâce à la peur. Et c'était Machiavel qui le disait, quand vous faites régner la peur, vous contrôlez le monde. Et vous parliez de menaces. Souvenez-vous, à chaque élection, il a dit, c'est moi ou le chaos. Ça a été lui et le chaos. Donc à chaque fois, on met du chaos, on met du chaos, on met du chaos. Mais il y a un moment où ben, il faut peut-être changer de chaos. Et puis qu'on puisse, parce que si on vit, il y a encore 2 ans à vivre avec M. Macron, plus 5 années, imaginez que ça bascule. Pour moi, le chaos, c'est les extrêmes, qu'ils soient à gauche ou à droite. Imaginez qu'on ait 5 ans en plus avec une élection présidentielle de chaos, on aura 7 ans de chaos. Donc je crois qu'il faut raccourcir et puis demander aux urnes de parler, demander aux Français de parler, parce que les Français s'expriment. Tout à l'heure, on disait en préambule, on parlait du côté un peu soumis de la population française. C'est vrai que le français, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de soumis, et puis ça date depuis la Pax Romana, depuis la défaite de Vercingétorix à Alésia, qui se situe en Bourgogne, à côté de mon village. Depuis ce moment-là, les Français ont du mal à se révolter. Ils sont révoltés en 1789, mais qui s'est révolté? C'est surtout la bourgeoisie, hein, c'est pas la bourgeoisie qui a manipulé le peuple. Et là, le peuple, il est manipulé par notre président de la République qui joue sur la peur. Et c'est une communication très machiavélique. Donc, faut sortir de ce régime, parce que quand on fait de la politique, pour moi, faire de la politique, c'est aimer les gens et aimer son territoire. Quand on est président de la République, on doit aimer la France et on doit aimer les Français. Donc je pense que depuis 8 ans, ce régime manque d'amour, avec un grand A, d'amour de la France. Est-ce que le président de la République a aimé la France? Non, il a cassé la France, il a désindustrialisé, il a fait perdre la souveraineté française sur le plan militaire, sur le plan même de l'énergie nucléaire, puisqu'il propose à l'Allemagne de partager notre. Il a cassé la démocratie, il a cassé la liberté individuelle. Vous savez, il y a plusieurs façon d'exercer la politique. Soit on est un taiseux, soit on est un faiseux. Moi, je suis plutôt taiseux, mais je pense avoir fait des choses parce que je suis un des rares à avoir fait une demande de résolution. Vous vous souvenez qu'entre M. Macron a engagé la France à son nom dans la guerre de l'Ukraine en engageant 30 milliards, puis en engageant 30 milliards, donc il y a eu une demande de résolution. Vous vous souvenez, les généraux là qui ont été déclassés, qui ont dit que c'était pas possible, parce qu'en plus on n'a pas les moyens financiers ni les réserves dans nos armes. Et moi, j'ai fait une demande de résolution parce que tout engagement financier ou militaire d'un pays, la France, c'est l'article 53 de la Constitution, doit être ratifié par le Parlement. Et personne n'en a parlé. Et je suis le seul politique à, je me sens un peu isolé, à demander, j'ai fait cette demande de résolution le 22 avril, pas de réponse du Premier ministre, je l'ai renouvelé au mois de juin, je l'ai renouvelé au mois de juillet, toujours pas de réponse. Le dimanche, j'ai envoyé une lettre au président du Sénat pour demander d'inscrire à l'ordre du jour le projet de résolution pour que les déclarations du président de la République qui engagent notre pays peut-être vers la guerre soient ratifiées par le Parlement.
Alors justement là, c'est vraiment très intéressant parce on en a parlé souvent à Quartier Populaire. On entendait encore la dernière fois Marine Tondelier qui se disait déçue de ne pas avoir été invitée par M. Macron comme il l'avait promis dans ce format Saint-Denis parce que c'est lui il a des informations à livrer à la représentation nationale mais hors Parlement. Hein. C'est quand même une bizarrerie. Puisque c'est M. Bayrou qui s'y était collé quand il était commissaire au plan, la première fois, il avait dit tout le monde est d'accord, circuler, il n'y a rien à voir, tout le monde est d'accord sur l'Ukraine, y compris le Rassemblement national. Bon, ça c'est, on referme la parenthèse, mais c'est vraiment extrêmement choquant. Alors, il y a beaucoup de questions, évidemment, parce que les gens veulent savoir à quelle sauce on va être mangé. On va essayer de faire les hypothèses rapidement. Bon, tu nous dis destitution, bah, de toute façon, on voit bien que la destitution, on peut se demander pourquoi d'ailleurs, hein, puisque là, même si la loi a été changée, la Constitution et le président de la République sont, qui est rendu finalement quand même assez irresponsable d'un point de vue juridique, ça c'était Nicolas Sarkozy, il y a quand même un article 68, dans la, manifestement, etc., je ne vais pas reprendre les termes exacts, mais incompatible avec l'exercice de son mandat. On voit bien qu'on est dans ce cas-là. Et que tout est affaire de lexique et de sémantique. Si on veut très bien, si on veut faire coller la réalité à ce qui se, à la Constitution, c'est assez facile de le faire sans tordre le réel. Bon, premièrement, pourquoi on ne le fait pas? Démission. Alors, je vais essayer de modéliser. Après, tu vas répondre à la salle. Démission. Bon, ben, démission. Tu l'as dit toi-même. Harold l'a dit. La nature même de M. Macron fait que, en plus, il a l'air de se réjouir du malheur des autres. C'est un peu, moi je ne suis pas psychiatre, mais il y a beaucoup de psychiatres, de psychologues, de psychanalystes qui sont intervenus en disant, il a le profil du pervers qui jouit de ses propres, du malheur des autres, etc., et qui est nombriliste et tout. Bon, ok, donc il ne va pas démissionner. Il y a plusieurs, je vois des questions, et le Canard Enchaîné a sorti une information ce soir. Il a demandé, donc il aurait demandé au préfet de se tenir prêt pour le 16 et le 23 novembre prochain. Hein. C'est Catherine Bourriaud qui pose cette question. Est-ce que tu as des informations particulières? On voit qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans les tuyaux de ce qu'on a pu suivre hein, de la journée en appelant les uns et les autres, personne n'est vraiment au courant parce que M. Macron est aussi quelqu'un de très imprévisible. Il y a soit une hypothèse avec la gauche qui a, enfin la gauche. Les autoproclamés de gauche, c'est Marine Tondelier qui a dit ça encore ce soir. On est tout près d'avoir Matignon et de former un gouvernement de gauche, et on n'a pas encore la réponse. D'autres disent, c'est une question qui est posée aussi dans le chat, mais peut-être la droite, puisque Retailleau est allé rediscuter avec le Cornu, peut-être la droite avec la bienveillance ou l'aide de l'extrême droite du Rassemblement national. Donc, on ne sait pas trop de quel côté ça va pencher, ou une dissolution. Voilà. Quel est, selon toi, le scénario le plus probable? Est-ce que tu as des informations, premièrement? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il serait souhaitable si on abandonne l'idée de la destitution? Parce que ce n'est pas la peine de faire des châteaux en Espagne et d'être maximaliste si ça n'arrive jamais.
Tu as parlé de la dissolution. La dissolution, elle a été évoquée par le Canard Enchaîné, qui est toujours bien renseigné, hein, et par l'Humanité. Faut pas se leurrer, tout est orchestré par Emmanuel Macron, hein. Tout ce qui se passe avec le Cornu, qui est aux manettes, c'est Emmanuel Macron, hein. D'ailleurs, il joue avec les institutions. Il a accepté la démission de M. Lecornu, c'est passé le 6 octobre au journal officiel. Il l'a chargé de faire des négociations.
Oui, parce qu'il est négociateur, là, il n'est plus Premier ministre.
Quand on mandate quelqu'un comme ça devrait être dans le journal officiel. Donc il joue complètement avec les institutions. Il se moque complètement des institutions. Déjà, le fait de ne pas démissionner, c'est pas inscrit dans le marbre de la Constitution de la Ve République.
C'est l'esprit de la loi.
C'est l'esprit de la loi, c'est l'esprit de la Ve République. Si vous êtes désavoué, vous devez partir. La démission d'Emmanuel Macron serait le seul acte véritablement digne, voilà, comme l'a fait De Gaulle en 1969. Et la seule réforme efficace serait la démission du chef de l'État. Moi, je pense que ça ne serait pas une faiblesse, mais ça serait un acte de responsabilité, parce qu'il a dit qu'il assumerait ses responsabilités. Donc, assumer les responsabilités, c'est soit une dissolution, soit une démission. Et ben moi, je parle de la responsabilité, elle implique aussi la dignité. Et pour moi, la dignité, c'est de démissionner. Parce qu'on ne va pas encore continuer pendant 2 ans avec ce genre de choses qui ne marchera pas. Un gouvernement. Il y a eu des alternances, vous vous souvenez, avec le président Mitterrand, il y en a eu deux, et puis avec le président Chirac, il y en a eu deux, et c'est les moments où la France a été le prospère, deux fois sous Mitterrand et une fois sous Jospin, où la France a repris, et à chaque fois, donc le président Mitterrand est repassé, et le président Chirac est passé. Et ça s'appelait des alternances, mais ça marche pas avec Emmanuel Macron, et ça ne marche pas avec le quinquennat. Voilà, ça ne marche pas avec le
C'est
quinquennat.
vrai que tu parles de dignité et on a aussi envie, je vais laisser la parole à Harold, mais de réparation aussi. On a envie de quelqu'un qui transcende un peu les partis, qui se hisse un peu au niveau de la situation telle que la situation l'exige. Et je voudrais avoir ton avis sur des gens comme... Alors, Barnier, c'était un peu différent, même s'il s'est rapproché du RN. Mais disons que Bérou, qui a engueulé tout le monde, hein, en fait, la dette, la dépense, etc., c'est la faute des Français, de tous les Français, on vivait au-dessus de nos moyens, etc. Monsieur Bérou a travaillé quelques mois dans sa ferme, dans les Pyrénées, là-bas, voilà, ça n'a pas duré longtemps, et il a dit la dette, ça fait 51 ans, mais j'ai regardé, c'est exactement la date de son entrée en politique, 51 ans. Il était au Centre démocrate, puis après au CDS. Donc finalement, la dette a coïncidé avec son entrée en politique. C'est un peu piquant. Donc il a engueulé tout le monde. Et puis ensuite, je voulais aussi avoir ton avis sur des gens comme Bruno Retailleau, hein, qui continue, lui, dans la partition, qui est très agressif en fait, hein. Alors, il dit pas les Arabes, mais tout le monde comprend quand même un peu que c'est il y en a après les Arabes, l'immigration, etc., etc. Est-ce que c'est le moment de séparer les gens sur les histoires de race, de couleur de peau, de religion, et de rajouter toujours, toujours, toujours des partitions comme ça? Est-ce que finalement, sans parler d'homme providentiel, sans basculer tout de suite dans la Sixième République ou vers quelque chose de plus participatif? Est-ce que la dignité, c'est pas aussi d'avoir un discours d'apaisement, de rassemblement, d'union, réparer ce qui a été tellement abîmé en profondeur, très profondément? Parce que ce qu'on dit là, on va mettre des années à s'en remettre, pas simplement d'un point de vue financier, mais du point de vue du délitement des mœurs, des pratiques, du vivre ensemble, des services publics, de tout ça qui faisait l'esprit, la nation française. Quand tu entends tous ces gens-là s'exprimer, est-ce que, en ton fort intérieur, bon, tu vas pas dire du mal évidemment, de ta famille politique, c'est pas ce que je te demande, mais est-ce que tu ressens ça en ton fort intérieur en disant c'est quand même pas la bonne option?
La dignité, c'est d'écouter les besoins des Français. Et de quoi ont besoin les Français? Ben les Français, Ils ont besoin du contraire de ce qu'a fait M. Macron. M. Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué le nombre d'écoles. Il a menti. Il diminue le nombre d'hôpitaux, de lits d'hôpitaux. Et il propose comme avenir une loi sur la fin de vie. Hein. On a changé le terme. De suicide assisté à fin de vie. Bah, les Français, ils ont besoin d'espérance, ils ont besoin de relever la tête. Parce que les Français, ils ont. Regardez les Français dans la rue. Les Français dans la rue, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des smambis. Ils marchent avec leur smartphone, ils sont dans les écrans parce qu'ils ont besoin ils ont besoin d'espérance. Les Français, ils vont plus au cinéma parce que ils ont plus les moyens. Les Français, ils se réunissent pas parce que ils ont plus les moyens de remplir un caddie et d'aller de se réunir en famille, de faire des repas, de se retrouver. Le vivre
Parce que
ensemble.
tout est fait pour les diviser aussi. C'est impossible de rouler, c'est interdit de s'égarer, c'est interdit de se réunir, c'est interdit de.
On
On
a
n'a pas de bonne voiture, on n'a pas la bonne vitesse, tout est interdit en fait.
créé des aidé-feu. Hein. Notre ami Alexandre Jardin a été exceptionnel là-dessus. Hein. J'étais un des premiers à le soutenir. On a créé des normes qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui va complètement transformer la vie des Français, la vie des propriétaires, des locataires. On a créé de. On n'est plus. On n'est plus gouverné, on est administré. Administré par une haute administration. Et le totem de cette haute administration, ben c'est Monsieur Macron. Voilà. Ce sont des gens qui sont déconnectés. Les Français, ils ont besoin de gens connectés. Et les gens connectés, ils écoutent le besoin. On a eu jusqu'à présent, vous parliez de M. Bayrou, il a prouvé qu'il était complètement déconnecté. La dette, il est effectif que le premier déficit budget déficitaire, c'était en 1973 sous Pompidou. Vous souvenez-vous, Pompidou, qui était quand même un banquier, a interdit à l'État de se financer sur les banques souveraines, sur la banque, et plutôt aller vers des banques privées. Donc voilà, une dépendance au capital. Donc c'est un homme de droite qui dit ça, c'est grave. Mais
Non, parce que c'est vrai que Pompidou, à droite, c'est un peu une figure intouchable, donc c'est quand même
c'est
plus ou moins.
une figure intouchable qui avait d'énormes qualités, mais le défaut, c'est d'avoir accepté le fait que l'État soit en dette. Premier défaut. Mais c'est un homme éclairé parce que, souvenez-vous, quand il a vu qu'on coupait les arbres le long des routes, il a demandé à son ministre de l'époque, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, le gouvernement a décidé de couper les arbres au bord des routes parce que c'était dangereux. Et il a dit, ben non, c'est pas possible parce qu'on est en train de casser le paysage français. Et le paysage français, c'est ce qui donne le bonheur aux gens. Hein. Quand vous allez à la Côte d'Azur, vous êtes heureux de voir ces alternances d'ombre et de lumière le long des bords de route. Et il a dit, arrêtez d'emmerder les Français. C'était une parole qui revient dans les discours politiques. Mais le besoin des Français, c'est arrêtons d'emmerder les Français.
On en est loin, hein? On est loin. Alors Harold, vas-y, je t'en prie.
Bah, sur la question politique, pour moi, il peut pas y avoir d'alternance avec Macron, puisque de toute façon, il a pris le centre, qui est un faux centre en réalité, hein, de l'échiquier politique français. Et donc à partir de là, je vois pas bien l'alternance. Macron méprise le politique. Il faut quand même avoir lu son livre là de 2017, Révolution. Hein, c'est peut-être prémonitoire d'ailleurs, peut-être que c'est son inconscient qui nous parle aujourd'hui. Hein, il s'adresse à nous comme ça par le temps. Révolution. C'est quoi cette révolution? Cette révolution, c'est dire voilà, nous sommes un vieux pays, nous sommes un pays avec des inerties, avec des blocages. C'est quand même le comble pour un homme qui a mis la France dans cet état. C'est-à-dire que l'homme qui disait la France est bloquée a créé quelque chose d'absolument inédit sous la Ve République, c'est-à-dire le blocage institutionnel complet. Mais surtout, il méprise le politique. Dans son livre de 2017, il nous dit c'est pas efficace, il faut trouver des process, il faut être disruptif, il faut. Voilà. J'avais dit il y a des années, je lui dis il a hacké la République. Monsieur Macron a hacké la République, c'est-à-dire qu'il pense, lui et ses groupes de lobbyistes, hein, McKinsey, les cabinets de conseil, tous ces gens, qu'en fait les Français sont un peu cons. Moi, je vous le dis comme je le pense, et ils le pensent en fait. Ils pensent que tout ça, c'est un peu de la bêtise, et que ces blocages sont liés à la bêtise des Français. Bêtise des Français qui élisent des gens incompétents, sous des couverts populistes ou démagogiques, et qui empêchent en fait à des gens éclairés. Hein, il se revendiquait des lumières, je rappelle, Monsieur Macron, au meeting de Nantes, quand il faisait campagne en 2017, les lumières. Et il y avait d'ailleurs toutes sortes de philosophes médiatiques pour lui brosser le cuir, hein, pour lui tanner le cuir, là, il lui brossait les poils, pour dire c'est un philosophe, c'est un président philosophe. Mais cet homme, ce n'est pas Frédéric II, hein, ce n'est pas un despote éclairé, c'est juste un despote, en fait. Et ce despote, il a complètement parasiter en quelque sorte les institutions, il les tourne à son profit, Alain le dit et c'est très juste, il joue et il jouit avec ça, mais il détruit encore une fois le politique. Voilà, pour moi Macron c'est pas un politique au sens strict du terme. Bien sûr qu'il a des réflexes politicards, mais dans sa logique, d'une certaine façon, il a pris un jouet, voilà, une espèce d'une machine en quelque sorte qu'il a investi avec une clique parasitaire. Et aujourd'hui, il ne lâche pas parce qu'il n'est plus dans une démarche politique. En fait, on aimerait qu'il soit politique, mais il ne l'a peut-être jamais été, en fait, justement. Et le système médiatico-spectaculaire a rendu ça possible en faisant la promotion d'un homme qui n'était pas un politique, qui n'a jamais été un élu, qui n'a jamais été au contact du peuple. On dit il connaît la France, mais qu'est-ce qu'il la connaît, la France? De quoi il la connaît? Est-ce qu'il a déjà travaillé? Est-ce que. C'est quoi son expérience? Elle est où sa praxis? On va parler un peu avec les marxistes. Elle est où la praxis de Macron? C'est zéro en fait. Il n'a aucune praxis. Et c'est ça moi qui m'inquiète le plus. Quand il parle, les gens l'écoutent. Quand il dit, il y a des places comme ça avec des gens cagoulés qui prennent la parole, mais tout le monde se reconnaît là-dedans. Il croit quoi? Il croit désigner quoi? De quoi il, en fait, de quoi il parle? En fait, il n'a pas d'objet, ce monsieur. Il parle, il est logoréique, il nous décrit une espèce de réalité, mais qui n'existe pas, qui est dans sa tête. Et le problème, c'est que moi, ça, je trouve très inquiétant. Quand un pays comme la France a à sa tête quelqu'un qui vit dans sa tête, elle est où la France? Là, c'est vraiment très grave. Donc pour moi, au-delà, et c'est pour ça, on pourra en discuter avec Alain, bien sûr, mais moi, je trouve que la position, évidemment, institutionnelle aujourd'hui, elle est très importante. Parce que la question, ce n'est pas de savoir si M. Faure doit être Premier ministre ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est quoi le politique en France aujourd'hui? Quelles sont nos institutions? Qu'est-ce qu'on défend? Et en quoi, comment on fait pour reconnecter le peuple français avec ses institutions politiques? Ça, c'est quand même très important. Parce qu'on ne peut pas non plus dire il faut tout bazarder. Moi j'entends des discours, y compris dans la rue. Oui, il faut tout brûler, il faut tout. Non, il ne faut pas tout brûler, il ne faut pas tout bazarder. On a des institutions qui ont une valeur, qui ont une vertu, mais le problème, c'est qu'elles sont vampirisées. Tu en parlais d'ailleurs, Didier, très bien dans une vidéo récemment. Tu disais, c'est en fait du vampirisme. Il a complètement asséché, il a complètement détruit de l'intérieur. Tu prenais l'image, je crois, des insectes dans le bois. Hein, et donc c'est ça. Et donc il a complètement. Et il faut maintenant revitaliser aussi nos institutions. Et il faut qu'on ait des politiques à la hauteur de ce défi-là. Parce que et après on verra. Oui, on n'est peut-être pas d'accord. Mais j'ai envie de dire dans un second temps. Là, il faut sauver. Il faut sauver ce qui fait notre nation et notre République quand même. Parce qu'on en est là.
Alors c'est vrai que la question, alors je te la pose aussi Alain, puisque tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, à l'international, on voit que le monde est agité quand même par des conflits importants. Alors bien sûr, il y a le Proche-Orient, le Moyen-Orient, avec la Palestine. J'allais dire peut-être c'est, allez, son seul fait d'arme de reconnaître l'État palestinien. Bon après, il ne s'agit pas de faire de la polémique, etc. Mais même si ça arrive un peu tard, il a un peu tout essayé. Il nous a ridiculisés. Hein, rappelle-toi, il voulait faire une force internationale auprès de Benjamin Netanyahou pour lutter contre le Hamas. ça a été la consternation dans le monde entier, hein, y compris dans les pays arabes, y compris évidemment tous les alliés de l'OTAN, et qui ont tous dit, les Américains en tête, il n'en est pas question, ce monsieur divide. Bon. Il y a évidemment l'Ukraine, et on voit qu'il s'engage dans le 19e paquet de sanctions, toujours plus pour toujours plus de guerres, et on a des gens comme Nathalie Loiseau, Ursula von der Leyen, qui interviennent avec le DSA, tu parlais de la liberté d'expression, fait par Thierry Breton à cet effet-là, qui interviennent directement dans les processus électoraux en disant c'est la faute des algorithmes, c'est la faute de TikTok, c'est la faute des gens cagoulés. Enfin, tout le monde comprend que ça n'a rien à voir et que, en dépit de ce qu'ils font, ben, la vague est tellement forte que ça a marché une première fois en Roumanie, mais ça ne marche plus, hein. Quand on voit la Tchéquie, la Slovaquie, la Moldavie, bon, petit à petit, la vague, elle est plus simplement patriotique, parce que comme le patriotisme est empêché, elle risque d'être nationaliste et à l'inverse, extrêmement belliqueuse, extrêmement violente. Comment on va faire, alors qu'on sait il y a eu un très bon rapport sénatorial, puis aussi de députés, sur le fait qu'en cas de guerre de haute intensité, ils nous préparent, hein, tous les jours, on tiendrait 5 jours. On fabrique en un an ce qui se tire sur le théâtre d'opération en Ukraine en une nuit. Voilà, on est complètement ridicule. On peut exporter 20 000 hommes sur un théâtre d'opération. Bon, tout ça n'a aucun sens. Comment on fait? Est-ce que c'est pas ça le plus urgent, finalement, que de débrancher d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, Monsieur Macron, pour ne pas qu'il aspire l'ensemble de l'Europe dans la guerre? Parce que c'est quand même ce qu'il est en train de faire.
J'ai fait un sondage que j'ai financé par mes propres moyens sur beaucoup de questions. J'ai posé une question sur la guerre en Ukraine. 80% des Français sont contre l'implication de la France en Ukraine. Tu as dit qu'il a reconnu l'État palestinien. Il l'a reconnu, et ça c'est un symbole, le jour de Hanouka. Mais il a reconnu quoi? Il a reconnu le Hamas. Et ça, c'est grave. Donc, il flirte un petit peu par sa politique étrangère avec, toujours dans la peur et la guerre, avec la possibilité de demander l'application de l'article 16. C'est-à-dire, quand on est en guerre, il n'y a plus d'élection. Donc, il reste. C'est ce qu'a fait le président ukrainien. Et moi, ce que je souhaite, et ce que nous souhaitons tous, les Français, c'est qu'il y ait une majorité en faveur de la paix. Et c'est important ce que tu as dit sur la paix. Et puis, Harold a parlé de révolution. Souvent, on dit il faut changer le système. Mais non, mais je pense qu'il faut s'adapter au système. Parce que le système, il est bon. C'est les hommes politiques qui sont pas à la hauteur du système. Donc il faut mettre de l'empathie et sortir de ce que Macron impose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis un virage. Il a juste fait un demi-tour. Il a cassé des codes et il a brisé des vies. Hein, on parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Et souvenez-vous, Harold a parlé de révolution tout à l'heure, il ne faut pas confondre révolution et révolte.
De son livre, hein, c'est le titre de son livre.
Mais la révolution, ce n'est pas la révolte. La révolution, au sens biblique, c'est retourner la table et changer le système. La révolte, c'est plus sanglant. Et souvenez-vous Didier, tout à l'heure, a parlé de l'appareil politique. Souvenez-vous, suite à l'affaire Benalla, il avait dit « Soyez fiers d'être des amateurs ». Le macronisme, c'est quoi? C'est une cour, c'est une espèce d'aristocratie où il y a un roi, Il y a des courtisans, voilà. Donc, et actuellement, qu'est-ce qu'on sort du macronisme, mais toujours avec ce rituel des courtisans modernes, c'est-à-dire un cycle léchage, léchage de bottes, lâchage de Macron, et maintenant lynchage. Donc, léchage hier, l'esprit courtisan, aujourd'hui c'est le lâchage, on recule, vous avez nommé Madame Loiseau, Madame Allier, et puis maintenant, ça va être après, ça va être le lynchage de Monsieur Macron. Donc, en tant que médecin, je suis pas en faveur de tirer sur l'ambulance. Je crois qu'il faut rentrer dans la dignité, et puis la seule solution, c'est que bon, il faut arriver à convaincre, et je pense qu'on peut convaincre cette personne de laisser la place, de laisser la place, parce que les Français ont des besoins, hein, on en revient, les Français ont des besoins, le besoin de vivre, hein, les Français ont besoin de se soigner, ils n'ont pas besoin que le Parlement légifère sur une loi sur la fin de vie, hein, les Français, ils ont besoin qu'on s'occupe de ce qu'il y a dans le caddie. Les Français ont besoin qu'on revienne à une souveraineté industrielle, hein, qu'on revienne. Le président Macron a désindustrialisé la France. Regardez Stellantis, catastrophe. Qu'on revienne à des. On a misé sur le tout électrique, la voiture électrique. Regardez nos voisins allemands qui nous ont plongés dans une désindustrialisation, qui nous ont forcés à brader notre électricité, et puis maintenant on vend notre électricité très peu cher aux Allemands, et puis nous, les Français, on l'achète 2 à 3 fois plus cher, c'est pas possible. Les Français, ils ont besoin de vivre. Il y a des Français qui, cet hiver, vont se poser la question entre se nourrir et se chauffer. Hein, nous.
Justement, on va, si je, si, je vais évacuer des questions de politique et à gauche et puis à droite. J'ai une question pour Harold, et puis toi aussi tu vas y répondre aussi, peut-être pour la droite. Et puis on viendra un peu sur le sociétal, puisqu'on en parle assez peu du sociétal finalement, de quels sont, parce que les hommes politiques parlent beaucoup des valeurs, hein, et notamment les macronistes, hein, c'est au nom de, on a des valeurs, on a les valeurs européennes, au nom de nos valeurs. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de parler de valeurs et qu'on dise quel est notre projet. Parce que j'ai pas trop compris, moi, ce qu'on a vendu pendant les JO, parce que la France n'a plus rien à vendre, en fait, hein. Donc, voilà, on parlera de ça. Mais j'ai deux questions du chat. Alors, d'abord, pour Harold, hein, puisqu'on distribue un peu les rôles. Aujourd'hui, j'anime, mais chacun, pour que ce soit vivant, apporte ses réponses. Que penses-tu, Harold, du fait que le PS, le PC des écologistes, veuille former un gouvernement sans LFI? Est-ce que c'est même vraisemblable? Puisque ça, évidemment, il y a quelque chose d'un peu surréaliste et lunaire, hein, LFI qui dit il faut faire il faut faire la NUPES, il faut faire le nouveau Front populaire, etc. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire ça. Fin de non-recevoir des socialistes qui depuis des mois leur tapent dessus en disant faut un cordon sanitaire, c'est des antisémites, c'est des salauds invétérés, etc. Donc je ne comprends pas trop la stratégie, mais est-ce qu'elle est viable? Et deuxième question, est-il de l'intérêt de la gauche de réclamer le pouvoir maintenant avec des élections dans 2 ans? N'est-il pas plutôt préférable de laisser l'extrême droite s'embourber puisqu'elle ne pourra rien faire non plus? Alors ça, on reboucle un peu sur la théorie maintes fois exprimée par Aude. Qui disait ben, finalement Macron ça l'arrangerait, bon là ça s'est un peu mal passé, mais que le Rassemblement national soit au pouvoir pour qu'ensuite il ne soit pas l'homme qui a permis au Rassemblement national d'avoir un président ou une présidente de la République. Et toi, de la même manière, à droite au centre, non, parce que bon, je ne vais pas te faire cette injure, mais disons à droite, est-ce qu'il y a des solutions selon toi telles qu'elles ont été exprimées par Henri Guénaud. Que penses-tu de l'alliance des droites ou de la bienveillance du Rassemblement national vis-à-vis d'une partie de la droite? Est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est une impasse? Harold, pour commencer.
D'abord, pour répondre aux deux questions qui sont quand même un peu liées, il faut voir l'écart entre ces questions et la réalité du pays par rapport à ce
C'est
qu'on vient, à
pour
ce
ça
qu'on
que je
vient de
dis,
dire. C'est-à-dire
voilà.
que c'est quand même un peu,
Je suis
en
obligé
général,
de le dire.
on
Voilà.
retourne dans la tambouille. Donc savoir si il faut LFI, pas LFI, c'est vraiment, enfin moi j'attendrai, enfin, justement, vu la séquence, enfin, vu ce qu'on a vécu avec Macron et le traumatisme qu'il fait subir au pays, la stratégie du chaos, parce que dans le fond, c'est ça, Macron. Hein, la peur, le chaos, le bordel, c'est le grand bordélisateur en fait. Et de toute façon, comme il bordélise, il y a un très beau dessin de Claude Ponty où on voit un personnage tout sourire au milieu d'un énorme caca, et t'as tous les gens qui sont autour de lui, des petits personnages comme ça faisait beaucoup rire mon fils, ils sont les pieds dans la merde comme ça, et puis ils sont complètement embourbés, et ils sont tous autour de lui, c'est concentrique, et lui il est au centre, il est tout seul, il règne au centre. Et c'est pour moi, c'est ça Macron. Donc il a créé ce chaos. Et vraiment, l'urgence, c'est d'abord de se dire où est la dignité, où est la respectabilité, où est la fonction. Et moi, je vois quoi? Ben, je vois de la tambouille politique. Alors, assez absurde d'ailleurs, parce que même du point de vue comptable et électoral, hein, je rappelle quand même que M. Mélenchon, on en pense ce qu'on veut, c'est quand même 20% aux élections de 2022, c'est-à-dire qu'il y a des millions de Français en fait qui se sont rangés derrière lui. Ça veut dire qu'il y a des millions de Français qui sont sensibles à la question sociale, des millions de Français qui ont été aussi combatifs par rapport à la réforme des retraites, qui se sont opposés à des lois liberticides, à une brutalisation du discours, hein, à toujours rechercher les mêmes boucs émissaires, aujourd'hui qui sont sensibles à ce qui se passe à Gaza, qui sont sensibles à toutes ces questions, hein, même si aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il y a eu ces attentats atroces, en fait, il faut pas l'oublier. Mais il faut ne pas oublier des deux côtés, en fait, que l'atrocité nourrit l'atrocité, et ça, et depuis des décennies. Donc, voilà, ça c'est 20%. Madame Hidalgo, qui représente le PS, c'est 1,75%. Elle a été dixième, c'est le PS hein, quand même, en 2022, hein, dixième. Elle a fait 600 000 voix, il faut quand même mesurer. Et ces gens-là, en fait, aujourd'hui, expliquent qu'un mouvement politique qui a pu récolter autant de voix à la présidentielle ne pourrait pas compter. Tout ça parce que quoi? Parce qu'il y a quelques antisémites supposés là-dedans. C'est pas, en fait, c'est pas sérieux. Mais moi, je vais dire, c'est même pas ça. C'est qu'on est en train de revivre une énième rechuchée de la destruction du politique. Monsieur Glucksmann, c'est pareil. Pour moi, c'est un Macron bis. C'est la destruction du politique. Quand je l'entends, je ne comprends rien. Une espèce de bouillie, je ne comprends strictement rien, en fait, de ce qu'il raconte. Donc, si moi, ça, c'est la gauche, ça, j'en veux pas. Voilà. Et les autres, je ne comprends pas ce qu'ils font. Et le truc des alliances électorales, ce n'est pas à la hauteur, en fait. Voilà. Moi, j'aimerais qu'il y ait un discours de surplomb. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Je ne sais pas. Le RN, peut-être que c'est une stratégie. Moi, c'est exactement pareil. Quand je vois M. Bardella, je ne sais pas. Moi, je vois pas un Premier ministre, encore moins un chef d'État. Je ne sais pas. Je ne vois pas là des hommes politiques. Je vois de l'arrivisme, je vois de l'opportunisme et je vois de la médiocrité intellectuelle et morale. Voilà.
Bon, en
Je
tout cas, on voit que
ne vois
aussi
certainement
bien.
pas une dimension pour la France. Donc, je peux même pas. Tu vois, je suis un peu désolé. J'ai même du mal à répondre à ta
Oui,
question
non,
et
mais
aux questions du
elle est dans
chat.
le chat, donc je la fais remonter. En tout cas, j'ai dit ça, j'ai fait une petite vidéo un peu humoristique en disant que Gabriel Attal, Olivier Faure et Jordan Bardella, la même semaine, et la barbe, enfin pendant 10 jours, se sont laissés pousser la barbe pour être premier ministrable et faire sérieux. Alors, blague à part, Alain, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu fais la même analyse pour l'autre côté du spectre politique?
Pour revenir au spectre précédent, la seule personne qui a pu faire un programme commun, c'est Mitterrand. Donc je pense que Mitterrand, c'est fini. Et on parlait tout à l'heure d'Hidalgo. Le pire qui puisse arriver à notre pays, c'est une minorité qui devienne totalitaire. Une minorité qu'oublie la majorité des Français. Et c'est ce qui se passe depuis des années. Depuis Hollande. Et 5 ans d'Hollande et puis actuellement 8 ans de Macron, où on oublie la majorité du peuple français. Pour la droite qui revient au pouvoir, la droite est très 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 divisée, ce qui est inquiétant. Et en France, est-ce qu'on peut faire des coalitions? Je pense que la Ve République, elle n'est pas faite pour des coalitions comme le font les Allemands. Hein, donc, et puis, ça me rappelle ce qu'on a évoqué beaucoup, où le président Sarkozy en a parlé, de l'acte républicain, en disant que le Front National est dans l'arc républicain, et en cela, il a raison, puisque s'ils n'êtes pas dans l'arc républicain, il faut le dissoudre. Donc, je me pose des questions. Je pense pas que la droite puisse revenir au pouvoir actuellement. Donc, moi, je serais partisan pour qu'on rebatte les cartes tout de suite, quoi.
Alors, la question est intéressante parce que.
Les Français sont capables d'un sursaut si on ouvre à l'élection présidentielle. Moi, je fais confiance aux Français. On a souvent parlé d'hommes providentiels, et s'il y a une élection présidentielle anticipée, moi je suis sûr que il y aura un homme politique qui va arriver, qui va être différent, parce que les Français, ils ont, comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont plus confiance dans la classe politique. On a une crise de représentation nationale, on l'a vu à l'Assemblée nationale, où le français ne se sent pas représenté. 70% de l'Assemblée, ce sont des fonctionnaires. Il n'y a plus d'ouvriers. Monsieur Bérégovoy, qui avait un CAP de tourneur,
Ajusteur, ouais.
ne pourrait plus être député et être premier ministre. Et ô combien c'était un homme digne. C'est un homme digne qui s'est suicidé, qui s'est suicidé malheureusement, et qui s'est battu contre la corruption. Et
Pour
je
moi,
pense.
aujourd'hui, tu vois, ce qui est compliqué, c'est que tout ce qui est représentatif ou dit représentatif garde les clés du camion. Et donc, tout est bloqué, en fait. Le temps de parole politique, bon, le temps de parole est bloqué. Les parrainages sont bloqués parce qu'il faut 500, c'est très compliqué hein, d'émerger. Les médias bah, sont propriétés je suis bien placé pour en parler, de quelques milliardaires qui ont un agenda qui n'est pas celui des Français, hein, je regrette, jamais. Ou par accident, de temps en temps ça fait contact parce que ils ont un marché et que voilà, sans être méchant ou trop accusateur, bah, on comprend par exemple quand Bernard Arnault fait affréter un avion pour la Chine avec le ministère des Affaires étrangères au début du Covid et qu'il envoie je sais plus 17 tonnes de matériel, tous nos gants, toutes nos blouses, tous nos masques, bah, c'est sûr que 70% de son expansion, aujourd'hui, depuis quelques années, elle se fait en Chine. Donc lui, il réagit en tant que multinational. Donc voilà. Et le problème de tous ceux qui achètent les médias, on ne fait pas des sous en achetant des médias, on fait des pertes hein, en général. Bah, ils ont tous des intérêts dans les travaux publics, dans le transport, dans les armes, dans la téléphonie. Etc., etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc comment arriver à imprimer les événements, comment agir sur notre quotidien quand on est dans un système comme ça, oligarchique, bloqué, c'est ça qui est compliqué. Et c'est sûr que les politiques vont pas se faire harakiri en disant on va faire le RIC, on va plus se payer. Etc. On va faire des mandats révocatoires. Ça n'arrivera jamais, en fait, hein. On est dans l'illusion parce que tu l'as dit toi-même, la Ve République, c'est pas l'esprit de la Ve République. Elle a été bâtie par et pour un homme fort, puissant, avec de la dignité. C'est-à-dire qu'un homme fort, c'est quelqu'un qui est capable de reculer, hein. Seuls les idiots, les hommes faibles ne reculent jamais, sont des idiots, hein. La peur, c'est l'intelligence. Donc, comment on fait? On bute toujours, nous, hein, tout le monde, hein, sur cette question de la coupe aux lèvres, parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire, et on ne le fait pas parce qu'on n'y arrive pas, parce que le système est verrouillé. Comment on fait sauter ces satanés verrous?
L'élection présidentielle, c'est on fait un chèque en blanc, on fait un chèque en blanc et on s'aperçoit que les promesses ne sont pas tenues, elles n'engagent que ceux qui les écoutent, comme disait le petit père, je ne sais plus comment il
Ouais,
s'appelait.
c'est Pasqua, non?
Ouais, le petit père Combes.
Oui.
Combes, hein.
Combe, oui, Combe au départ, oui.
Mais pourquoi ne faisons pas confiance dans l'avenir où un jour on aura un homme politique élu qui tiendra ses promesses et qui sera dans la dignité? C'est un rêve, peut-être un vœu pieux, mais moi je fais le pari qu'après ce qui vient d'arriver, un homme politique comme Macron, c'est plus tenable. Un nouveau président comme Macron, c'est plus tenable, parce que les Français ne supporteront pas. Il y a un moment où les Français sont complètement abasourdis, humiliés, ils savent très bien que ça ne sert à rien, mais il y a un moment où le fusible y pète, et les Français y seront dans les rues. Donc moi je fais le pari que un jour on aura un homme politique digne, un vrai. Regardez ce qui se passe en Italie, Madame Meloni, qui fait partie de l'extrême droite italienne. Elle a réussi à devenir digne et à élever son pays. Hein. Elle a travaillé sur l'immigration je suis pas un spécialiste de l'Italie, mais je pense d'une façon digne. Elle a remonter sur son pays sur le plan de l'industrialisation et l'Italie est devant nous. Nous maintenant on est derrière. Nous sommes un pays qui recule parce que on a des hommes politiques qui sont là pour servir un système. Ben, il faut sortir une fois que le président est élu, il est intouchable. Il faudrait que le futur président de la République se fasse élire avec le système et retrouve sa dignité. Et qu'il soit là pour sauver la France. Parce que un pays comme la France, le général de Gaulle, quand il est arrivé, le pays était complètement endetté. On a failli être envahi par les Américains. Vous savez, les Américains avaient créé le Amgot, hein, avaient imprimé des dollars français. Il pensait que, mais le général de Gaulle, il est arrivé avec ses préfets, sans préfet. Et pour prendre le pouvoir, il faut 100 préfets. C'est pour ça que je pense que le Front National ne peut pas prendre le pouvoir. Parce qu'il a pas 100, ils n'ont pas 100 préfets derrière eux. Il faut des hauts fonctionnaires qui soient capables de gérer la décentralisation et de gérer les territoires. Parce que la France, c'est une mosaïque. C'est un pays, mais c'est pas que Paris. C'est 100 départements, hein, qui sont différents. C'est une mosaïque. Il faut des hommes, des grands commis de l'État qui soient là pour gérer les choses d'une manière humaine et être à l'écoute. Voilà. Donc, moi, je fais le pari qu'un jour, on trouvera quelqu'un de digne. Parce que jusqu'à présent, c'est pas terrible.
Bon, alors, est-ce
À
que
droite comme à gauche. Voilà.
Harold, est-ce que tu partages cet optimisme par l'exemple? Est-ce que la circonstance fera l'homme d'État? Parce que c'est vrai quand même, les Français ont été dans l'espérance, dans la gentillesse, dans la foi aussi, hein, il faut le dire, parce que chaque fois, ils ont remordu à l'hameçon, et puis chaque fois, ils ont été déçus. Est-ce qu'aujourd'hui, Harold, tu penses que, avec. Alors, bon, ce que vient de dire Alain, ça exclut d'emblée quelqu'un comme Édouard Philippe. Parce que si on ne veut pas un homme comme M. Macron.
Ça exclut la totalité du spectre actuel, en fait.
Vas-y.
Il faut être clair, hein, là-dessus. Ça exclut la totalité du spectre actuel, y compris des. Je parlais de Mélenchon, mais y compris Mélenchon, ça exclut tout ça. Ça exclut tout ça parce qu'il faut changer, en fait. Il faut changer de registre. C'est-à-dire que la tambouille électorale, on l'a vu avec la NUPES. Enfin, moi, j'étais contre la NUPES. J'ai dit, mais on peut pas. Faut être cohérent. Enfin, on peut pas d'un côté se taper dessus et puis tout d'un coup faire une alliance électorale, ensuite voter pour un candidat macroniste contre un candidat voilà, pour faire élire. Ça s'est passé en Sud-Gironde. On a eu l'élection de la députée macroniste qui est foncièrement incompétente, tout ça, parce qu'il y avait. Bon, tout ça, c'est des tambouilles, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça et il faut revoir aussi, je pense, idéologiquement, ce qu'on veut de notre République. Et ça, c'est très important. Il faudrait qu'on arrive à se mettre à table avec des gens qui ne sont pas du même bord parce qu'ils n'ont pas exactement le même angle et les mêmes préoccupations. Ça, c'est très important. En fait, il faut arriver à faire discuter, non pas la gauche et la gauche, non pas la droite et la droite, c'est pas ça, mais des gens qui ont des intérêts républicains sociaux des deux côtés, en fait, qui ont une pensée institutionnelle, qui aiment leur pays et qui ont une visée pour le pays. Donc ça, c'est très important. Moi, pour l'instant, je ne le vois pas bien, voire pas du tout. Mais moi, le pire, ce qui m'a inquiété véritablement avec Macron, c'est que lorsque j'ai étudié le phénomène Macron en 2017, je n'ai pas étudié Macron, j'ai étudié le système médiatique qu'il a fait. Et moi, je pense que ce système médiatique aujourd'hui, tel qu'il est, ne peut faire la promotion que de gens médiocres. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'on a une exigence politique que porte Alain et que je porte aussi, et que tu portes, Didier. On a une exigence politique et morale, mais cette exigence, elle vient se fracasser sur un système de promotion médiatique qui est d'une médiocrité absolue. Il faut bien comprendre ça. Monsieur Glucksmann, par exemple, la façon dont on nous vend le produit Glucksmann, c'est tout simplement effrayant. Enfin, moi, quand je l'ai vu il y a quelques années, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Enfin, on peut pas. C'est pas un homme politique, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'une certaine façon, moi, je le trouve pire que Macron. Et pourtant, aujourd'hui, on nous le propose comme une option possible. Mais c'est pas sérieux, en fait. Et donc, mais tout ça, le problème, il est là. Et là, je veux poser une question à Alain, parce que c'est vraiment une question qui me taraude depuis tout à l'heure. C'est que, au fond, cette stratégie du chaos. Est-ce qu'il n'est pas en train, Macron, de nous dire, mais regardez les Français, vous n'êtes pas capable, au fond, de vous gouverner, puisque lui n'est pas responsable. Hein. Lui, il constate qu'on ne peut pas se mettre d'accord. Voilà, lui, c'est l'arbitre des élégances, et donc on ne peut pas se mettre d'accord. Et est-ce qu'il ne faut pas déplacer tout ça sur une autre scène? Est-ce qu'il n'est pas en train, par cette stratégie du chaos, de détruire les institutions nationales pour dire, ben, finalement, regardez, il faut qu'on raisonne à une toute autre échelle. Hein, c'est un peu le discours d'Attali. Il faut qu'on raisonne à une toute autre échelle, une échelle européenne, voire mondiale, en fait, où finalement la France, bon, ben, vous voyez, la France, en fait, c'est cette espèce de petit village Astérix, quoi, qui se tape dessus avec des poissons. Donc on a les deux poissonniers de gauche et de droite qui se tapent dessus, et en fait, l'Empire n'est plus là. Et peut-être que Macron veut nous montrer ça aussi. Et c'est pour ça qu'il ne démissionne pas, parce qu'il veut prouver aussi quelque chose. Regardez, la France est ingouvernable. Mais c'est ce qu'il pense depuis des années, en fait. Et là, il le prouve. Il le prouve en le provoquant. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est ce transfert-là. Donc, quand je parle, vous savez, vous avez des souverainistes aujourd'hui. Alors, ce qu'on appelle les souverainistes, moi, je n'aime pas trop ce terme, parce que je préfère République sociale. Voilà. Parce que le souverainisme, c'est comment dire, c'est le Rousseau, il dit oui, le peuple est souverain, mais il parle pas de souverainisme en soi. Le souverainisme, c'est pas une finalité, c'est un moyen qu'on a pour mener des politiques publiques. Donc voilà, parce que le problème, c'est qu'on glisse aussi de l'un à l'autre. Mais il faut pouvoir, et il y a des gens d'ailleurs de gauche et de droite, on va dire, admettons, qui se retrouvent sur ces questions. Véritablement, et je dirais qu'il y a même une force politique qui existe en fait, mais il faut des hommes pour la porter et il faut le courage politique d'en finir avec ces tambouilles. C'est pour ça, ta question, Didier, de savoir LFI, machin, vraiment, ça m'intéresse. Enfin, je trouve que
C'est pas
la
la mienne,
situation.
hein. C'est pas la mienne, c'est ça.
Non, mais je sais, mais je trouve que la situation est tellement catastrophique que c'est pas possible. Mais Monsieur Faure, allez, à la limite, on lui donne à Monsieur Faure. Allez, Monsieur Faure, hein, Olivier Faure, il est Premier ministre. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va avoir la plume où je pense. Et qu'est-ce qu'il va en faire de ça? C'est pas sérieux quand même. Et avec quelle force, sur quelle base idéologique, avec quels appuis? Il peut rien faire en fait. Donc c'est véritablement une réforme de l'entendement au sens ancien pour aller vers une révolution institutionnelle. Moi, c'est ce que j'aimerais. Je crains, hélas, je crains que ce soit pas ça et qu'on ait des révoltes brutales, violentes en fait, et qui ne mènent à rien et qui ne confirment que notre dépossession politique nationale. Voilà, ça c'est ma crainte en fait.
Alors, nous avons parlé des hommes et de leur incapacité hein, finalement à se hisser à la hauteur de la situation. Nous avons parlé des institutions, également on a essayé de modéliser un petit peu ce que M. Macron pourrait faire, ce qui ce qui apparaît probable, plausible, ce qui paraît impossible, trop éloigné ou simplement trop idéalisé, simplement des vues de l'esprit. Bon, on a. Alors là, je voudrais. Il nous reste un quart d'heure. Je voudrais interroger un peu le citoyen, le médecin, l'humaniste aussi, sur le projet de société qui pourrait être porté par une équipe, par un candidat. Toi, tu t'es engagé beaucoup sur. Quand tu as vu que le Rivotril pouvait être comme ça prescrit, administré sans passer par du contrôle médical, bon, on a découvert que beaucoup de nos anciens, auxquels on n'a pas pu rendre hommage, hein, parce que ils sont morts de ça, nos anciens, hein, ils sont pas morts du Covid, hein, ils sont morts de solitude et de peine, hein, pour beaucoup, parce que quand on a 90 ans. C'est pas le Covid qui va te tuer, hein. Quand tu as 90 ans, c'est quand tu vois pas tes enfants, tes petits-enfants, et que tu crèves seul dans une chambre en regardant la télé, quoi. Bon, y a cette question-là, la question de la fin de vie et de la numérisation au sens large de la société. Je trouve que c'est complètement absent des politiques publiques, en tout cas des débats, des réflexions. Tu le disais toi-même, on ne sait plus. Vous le disiez tous les deux d'ailleurs. On ne sait plus comment on avance, pourquoi on avance. Tout est digitalisé. Moi, je vis à la campagne, en Normandie, intérieure. Bon, ben, il y a des maisons de l'État, là. Elles sont ouvertes de temps en temps. Tu ne peux plus rien réclamer. Il n'y a plus de centre d'impôt. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne aux autoroutes. Il n'y a plus personne dans les stations essence. Il n'y a plus personne dans les services publics. Et il faut passer par Internet, taper 1, taper 2, taper 3, taper étoile. On est vidéo-verbalisé. C'est une société de merde, quoi. On n'est plus dans une société humaine. Est-ce que, finalement, plutôt que de faire des programmes et des programmes et des programmes qui sont jamais suivis des faits, on ne devrait pas revenir à quelque chose de plus simple, un projet de société? Voilà comment on a envie de vivre. Voilà quelles sont nos priorités. Je voudrais aussi t'entendre sur la fin de vie, puisqu'on en parlait. Juste avant de prendre l'antenne, moi j'étais plutôt favorable au départ, hein, mourir dans la dignité, c'est quelque chose que je comprends, qui me parle. Je ne suis pas pour défendre la vie à tout prix quand on est dans la souffrance, enfermé dans un corps qui réagit plus avec toutes nos facultés mentales, ou à défaut quand on n'a plus aucune faculté mentale, qu'on fait souffrir tout le monde, je peux le comprendre. Mais j'ai discuté avec notre amie commune Alexandra Orion-Code, qui me disait au Canada, dans les dernières statistiques de mortalité, 6% des gens, c'est du suicide assisté, quoi. Les chiffres m'ont semblé énormes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette loi t'a choqué, après la loi Leonetti? Est-ce que finalement, on n'est pas dans des variables d'ajustement par un côté un peu automatique qui déresponsabilise tous les acteurs de la société?
Oui, faut revenir un petit peu à la philosophie. La République, c'est la res publica, la chose publique, qui appartient à tout le monde. Et actuellement, notre République française, elle est gouvernée par une médiocratie. Hein? On l'a vu, et des médiocres. Harold a nommé Glucksmann. J'aimerais qu'on regarde le passé de Monsieur Glucksmann, en Géorgie en particulier, où il était. Le conseiller de Nagachvili, hein, quelqu'un de sanguinaire, lui posait des questions sur ce qu'il a fait là-bas et sa part de responsabilité. Sur la fin de vie, moi je suis radiologue et je fais beaucoup de cancérologie et j'ai beaucoup interrogé des gens qui s'occupent de soins palliatifs en tant que sénateur. Et à Dijon, il y a une unité de soins palliatifs qui était des premières de France. Et j'ai un de mes employés manipulateurs qui a terminé sa vie là-bas. C'est une merveilleuse maison où on peut dire au revoir. Et quand on découvre un cancer à un fumeur, par exemple, si vous l'interrogez avant, il va dire si jamais j'ai quelque chose, je veux l'euthanasie. Et une fois qu'on découvre que j'ai découvert un cancer, Ben, ces gens-là, ils arrêtent de fumer. Donc ça veut dire qu'ils tiennent à la vie. Et le problème de la fin de vie, c'est qu'on n'a pas les moyens des soins palliatifs. Il y a 17 départements en France qui n'ont pas de soins palliatifs. Donc à peu près 20% de la population ne peut pas dire au revoir. Et j'ai interrogé des directeurs de soins palliatifs. Ils me disent... Quand les gens, le premier jour, les gens, ils veulent en finir vite, mais le deuxième jour, non. Parce qu'ils sont dans un lieu où il y a du nursing, où ils sont aidés, où la famille peut venir dormir et ils peuvent dire au revoir. Le problème, c'est que la France, c'est le pays où on donne le moins de sédatifs. Hein, on donne le moins de morphine. Donc, ben.
Alors, question, j'ai eu un, pas par exemple, cas personnel, un grave accident de moto, je demandais de la morphine, il fallait faire des pieds et des mains, on ne te donne pas de morphine à l'hôpital. Je ne comprends pas pourquoi. Et jamais personne a voulu me répondre. Pourquoi, en France, quand on est dans la souffrance absolue, on n'a pas droit à avoir de la morphine? Alors, je comprends qu'il y a de l'accoutumance, etc. Enfin, on ne va pas se droguer. La douleur, elle va durer, quand tu dois être opéré, 2 jours, 3 jours, 4 jours maximum. On a droit à avoir de la morphine. Pourquoi on ne traite pas la souffrance dans l'hôpital français?
Ça évolue parce que maintenant il y a des centres antidouleurs. Mais il est vrai que c'est pas une tradition française. Mais pour en revenir à la fin de vie, je pense que la dignité, c'est de dire au revoir. Dire au revoir à ses proches. Et il y a les travers du Canada, comme tu l'as exprimé. Il y a les travers de certains pays où, si vous déprimez, ben, vous pouvez demander le suicide assisté. Et je pense que ce n'est pas une loi d'avenir, on a peut-être d'autres choses à penser en ce moment. On parlait de la dette, on parlait de la descente de la France, du mépris des hommes politiques par rapport à la France. Les Français, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'occupe de leur quotidien. Et je pense que la fin de vie, c'est pas... Voilà, c'est une tête d'affiche pour dire, bah tiens, on s'occupe de vous. Les Français, ils ont besoin de plus de santé. Ils ont besoin d'être en bonne santé. Ils n'ont pas besoin qu'on les aide à mourir. Et la caricature, c'est que Monsieur Lecornu, ou le président le gouvernement de l'époque, du mois dernier, avait prévu de faire en sorte que cette loi ne soit étudiée qu'une semaine au Sénat, une semaine, et 2 semaines à l'Assemblée nationale. Donc c'est se moquer un petit peu des parlementaires du Sénat qui, eux, ce sont des gens connectés. Les sénateurs, ils ont tous été maires, ils ont tous été au contact de la population. Contrairement à l'Assemblée nationale actuelle, où 70% des députés sont complètement déconnectés, ils sont pas au courant de ces faits. Et la loi Leonetti, j'en ai parlé avec Jean Leonetti, c'est une bonne loi, c'est une loi qui est juste. Et la relation médecin-patient, c'est une relation intime, où de toute façon, on s'est jamais acharné, un médecin s'est jamais acharné à aller au-delà de ses limites. Mais quand on donne la possibilité à un patient gravement malade de dire au revoir, eh ben ça, c'est une réussite. Et si on doit étudier, travailler sur la loi Leonetti, il faut, un peu comme Montesquieu et les lettres persanes, y aller les mains tremblantes. Hein. Et j'aimerais si on doit discuter sur cette loi, qu'on en discute avec des grands spécialistes comme Léon Letty, le mettre autour de la table, hein, et puis que tous les partis l'interviewent, hein, et puis interviewent les gens concernés, ceux qui s'occupent de soins palliatifs, parce que le problème en France, c'est pas la fin de vie, c'est les soins palliatifs. Voilà. On n'est pas capable, on supprime les hôpitaux, on diminue des hôpitaux en France, on diminue des lits d'hôpitaux, on les réduit, et puis, parce qu'on n'a pas les moyens de mettre 100 millions dans les soins palliatifs. Et c'est là où les Français ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et s'occuper des soins palliatifs, c'est s'occuper des Français, les plus faibles. Et un homme politique devrait être comme un médecin, être là quand tout bascule. Et quand vous rentrez en soins palliatifs, ça veut dire que tout bascule. Et on doit faire le maximum pour vous. Voilà. Moi, c'est une loi qui me touche beaucoup parce que cette loi, si un jour on a un gouvernement totalitaire, souvenez-vous ce qui s'est passé dans les camps de concentration, hein. C'est-à-dire que ne pas demander à des handicapés, par exemple, le choix. Voilà, je le dis avec beaucoup d'émotion, mais voir mourir quelqu'un pour un médecin, c'est toujours un échec. Voilà. Voir mourir quelqu'un dans une famille, c'est toujours un échec. Voilà. On doit être là. Et une société, c'est une chaîne de solidarité dont la force est celle du maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible, c'est celui qui souffre, comme toi quand tu étais dans un hôpital avec tu étais cassé de partout. T'avais besoin qu'on t'aide, qu'on te mette de la morphine. Ben heureusement qu'on t'en a mis, parce que tu es là. Voilà. Donc, le soin palliatif, c'est d'aider le plus faible. Voilà. Donc, je souhaite qu'on soit dans l'empathie. Dans l'empathie et l'altérité. Hein. Liberté, égalité, fraternité. J'aimerais qu'on rajoute altérité. S'occuper de l'autre. C'est ce qui manque en France.
Alors, pour conclure, d'abord, Harold, quelques mots. Moi, en t'écoutant, je me disais, j'ai un peu l'impression qu'on parle aussi, et ça, c'est un peu terrifiant, de la France, quoi, hein. Est-ce qu'on va l'euthanasier ou est-ce qu'on est dans les soins palliatifs ou est-ce qu'elle va renaître de ses cendres? Je pense qu'elle va renaître de ses cendres puisqu'on s'est remis
C'est le
toujours.
macronisme qui est en soins
Ah,
palliatifs.
voilà, il faut pas, c'est ce que j'allais dire, il faut pas. Souvent, moi, quand je vais à l'étranger, et les étrangers, d'ailleurs hors Union européenne, le perçoivent, ça. Hein. C'était un peu ma hantise chaque fois. Je dis, attendez, nous, Macron, c'est pas la France. Hein. Nous, on est des Français, c'est notre président, comme Israël n'est pas Netanyahou, comme la Palestine n'est pas le Hamas, etc. Il faut faire attention, je pense.
Il faut toujours rappeler ces évidences, hein, c'est
Voilà,
très, très
c'est des
important.
évidences, mais bon, voilà. Harold, quels
Écoute,
sont pour
moi,
toi les motifs d'espérer? Et est-ce que la France va s'en sortir? Alors, on a fait quand même un vaste tour d'horizon. Est-ce que tu gardes quand même, sans être dans l'espérance, la foi ou j'allais dire la transcendance, l'immanence, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? C'est un vieux pays hein, qui en a vu d'autres, qui s'en est sorti. Est-ce qu'on va s'en sortir?
Alors d'abord, je veux revenir sur ce que vient de dire Alain sur la fin de vie, parce que ça m'a évoqué, j'en avais déjà parlé une fois d'ailleurs, le décès de ma grand-mère. Elle a décédé à Dole, et en fait, elle était en soins palliatifs, mais en réalité, il n'y avait pas de place. Il l'avait mis en urologie avec une petite poche de glucose, dans une sorte de... Honnêtement, c'est une sorte de placard, enfin, une espèce de truc, c'était pas une chambre, en fait. Elles étaient deux, c'était deux dames. Ma grand-mère était très détériorée, elle était toujours vivante. Et j'étais tout seul, donc il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait rien du tout. J'ai erré dans le couloir pour trouver cette petite pièce. Je suis rentré dans la pièce, et ma grand-mère était dans un tel état, et la personne à côté était dans un tel état, que j'ai eu du mal à reconnaître ma grand-mère. J'étais tout seul, je ne savais pas, en fait. J'ai eu pendant 3 secondes, deux personnes mourantes, j'étais tout seul, j'étais pas accompagné, il n'y avait personne, en fait. Voilà. Ça, c'est indigne. Ça, c'est indigne. Et j'en veux pas au personnel du tout. Hein, j'accuse pas l'hôpital de Dole, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, après, j'ai croisé une aide-soignante qui était désolée pour moi. Enfin, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Comment? Enfin, bon, bref, voilà. Donc, c'est pas du tout ça. Mais ça, c'est pas digne. Pour compléter, on ne peut pas laisser des lois aussi graves à des gens qui ont empêché de voir leurs proches pendant le Covid. Dans des hôpitaux. Les mêmes qui vous ont fait des jauges, les mêmes, c'est arrivé d'ailleurs avec mon ex-compagne et sa grand-mère. Elle n'a pas pu y aller alors qu'elle était mourante, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Covid. Je dirais, ces gens sont capables de faire ça et vous voulez avoir confiance lorsqu'ils font des lois sur la fin de vie. Mais c'est pas sérieux. On ne peut pas laisser ces gens faire des lois pareilles. En fait, il y a un problème de nature d'homme. C'est pas possible, en fait. Il faut comprendre, quoi. On peut pas laisser des lois comme ça aux mains de McKinsey. Là, moi, ça me va. C'est pas possible, en fait. On n'est pas dans le même monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, par rapport à la confiance, tu le sais, moi, je suis professeur. Je vois tous les jours des élèves. J'ai vu des élèves aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai même fait cours à des bacs professionnels, donc de la philosophie à des bacs professionnels. Et donc, voilà, c'est un peu des innovants. On essaie de faire des choses. Bon. Et c'est très intéressant. Et il se passe des choses. Moi, je crois à ça. Je crois que non, le réel, ce n'est pas ces gens qui flottent dans une petite cour au miracle dans deux, trois arrondissements parisiens. C'est pas ça, la France. La France, c'est pas ça du tout. Et ça, les Français, ils le savent. Donc, pour moi, il n'y a pas à désespérer. Par contre, là où je suis un peu plus pessimiste, c'est vrai, c'est que je pense que l'affrontement qu'on va devoir engager risque d'être dur. Voilà. Risque d'être dur. Tu te souviens, Didier, on a reçu François Asselineau. Enfin, tu étais face à lui et il a dit qu'il ne croyait pas aux mouvements sociaux, etc., que tout ça, ça marchait pas. Bon, voilà, que tout ça marchait pas. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que je crains, en fait, que vu le niveau de cécité, d'aveuglement des gens qui sont au pouvoir, on en passe par des choses brutales. Et sincèrement, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça parce que Alain, d'ailleurs, l'a dit récemment. Vous parliez, Alain, de guerre civile froide. C'était votre expression. Et je trouve que c'est ça, en fait. Et ça, il faut tout faire pour éviter ça. Moi, je vois une haine monter. Je vois, lorsqu'il y a des manifestations, des cris dans la rue, on s'invective, on n'est pas d'accord, vous bloquez pas, des gens qui s'engueulent. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est un climat qui est très mauvais. Le président de la République doit être garant de l'unité du pays. C'est quand même sa tâche, en fait. Et là, on n'y est pas du tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette guerre civile froide ne sera jamais directement une guerre entre guillemets civile entre le peuple et des élites qui, elles, seront loin, cachées, etc. Non, non, ce sera une guerre entre nous. On va se manger entre nous, en fait. Et ça, ce serait la pire des choses. En termes de perversité du pouvoir, c'est la pire des choses, en fait. Il faut éviter ça. Hein, d'un côté, en s'insultant de fachos, hein, de droitardés, de gauchistes, d'islamo-machins, etc. Alors qu'en fait, on gagne à peu près tous le même salaire, on a à peu près tous les mêmes conditions de vie, on a tous des grands-parents qui sont dans des EHPAD et dans des difficultés, on a tous des gamins qui galèrent pour trouver un travail. En fait, on partage le même monde commun et on va finir par s'entretuer, se tirer dessus parce que des pervers cyniques sont au pouvoir et jouissent sur le dos des Français. Non, 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 non. Il faut régler le problème politique pour éviter ça. Voilà. Et c'est pour ça que, évidemment, on a invité aussi Alain ce soir sur cette question, parce que c'est une question qui transcende largement les partis politiques. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est beaucoup plus sérieux que des histoires de poste. Non, non, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu.
Alors, pour conclure, Alain, évidemment, on vit un moment historique, hein, inédit, j'allais dire, sous la Ve République. On voit on parlait tout à l'heure du délitement, d'une certaine accélération de l'histoire avec sa grande hache, comme disait Georges Perec. Comment tu vois les choses? Est-ce que M. Macron va se convertir à la dignité que tu évoquais? On a fait un détour par la dignité sur la fin de vie et sur la vie en général, parce que c'est un peu ce qui manque. C'est un peu la substantifique moelle, normalement, de toute action publique, de tout métier ou profession à vocation, hein. C'est-à-dire quand on est pompier, médecin, homme politique ou professeur, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas une critique, être artisan, commerçant, profession libérale ou chauffeur routier, c'est autre chose. Bon. Donc ce sont des métiers à vocation. Comment on s'en sort? Est-ce que M. Macron, selon toi, va se convertir à la dignité ou est-ce qu'on va vivre encore ces quelques mois dans l'incertitude la plus totale et le déclassement hein, parce que non seulement on se paupérise, Mais évidemment, comme le dit Harold, plus on est pauvre, plus on regarde dans les yeux des autres et on y trouve toujours de la haine et une justification à taper sur son voisin, quoi. Voilà. Donc, on te laisse conclure.
Je vais m'additionner à ce qu'a dit Harold. Je pense qu'il faut être à la hauteur. Il faut que nos gouvernants soient à la hauteur et qu'on parle avec le peuple de la quintessence de nos valeurs. Et puis, faire société. Travailler sur faire société. Faire société, c'est faire en sorte avoir un peu l'esprit messianique. Aimez-vous les uns des autres, hein, vous savez, cette phrase. Et on a parlé tout à l'heure de la fin de vie, de ce qui s'est passé à Dole. Je pense qu'on est mieux aidé par son prochain. Et le problème de cette société technocratique qui a été créée par Macron, d'intelligence artificielle, d'ultra-administration, de règles, les Français sont perdus. Et c'est pas l'IA qui va résoudre ça. Parce que l'IA, ce sont des algorithmes qui font plaisir à ceux qui ont créé les algorithmes, et les algorithmes qui les créent, ce sont l'élite. C'est l'élite. Donc, revenons à des choses plus simples. Souviens-toi, Didier, quand on s'était au téléphone, ça a coupé 4 fois. Parce que maintenant, il y a la 5G, et la 5G, ça prend toute l'énergie, et maintenant, ça crée des zones d'ombre. Ça veut dire que encore le milieu rural va en prendre plein la tête. Donc, il faut revenir à des choses plus simples, à une vraie décentralisation, c'est-à-dire que chaque prochain s'unisse pour créer la société. Il faut recréer une république, la société, en partant de la base. Et c'est pas à l'élite, au sommet de la pyramide, à dire ce qu'il faut faire à la base. Revenir à des choses, inverser la pyramide. Voilà.
Eh bien, merci pour ce beau mot de la fin. Merci à tous, vous étiez très nombreux ce soir. Eh bien, justement, QG, c'est aimez-vous les uns les autres. Hein. Il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'homme puissant. Donc, on marche par les abonnements. C'est le média qui appartient aux gens qui le font, qui le regardent, qui décident. Et on essaie de faire société à notre modeste niveau. Et je pense que c'est peut-être, sans doute même, que les médias aujourd'hui, dits alternatifs, montrent cette voie-là. Alors, tout n'est pas parfait, on a aussi beaucoup de travers. Mais enfin, cet espace collaboratif fonctionne. Et quand on fait des émissions longues, on va un peu dans le fond des choses. C'est pas caca pipi popo, hein, comme prenez-moi la comédie humaine et faites-moi une brève, comme à la télévision française, enfin la comédie humaine. Il y a bien longtemps qu'on n'en est même plus là. Donc voilà, merci à toi, merci Harold, merci à
Ouais.
toute l'équipe. Vas-y, je t'en prie.
Ouais, merci Didier. Parce que on a dit Macron fin de partie. Je crois que tout ce qu'on a décrit là, avec humanité et avec sincérité, je pense qu'on n'est pas dans l'esbroufe. Hein, voilà, on est à même le réel, est incompatible avec Macron et son monde. Voilà. Je crois qu'on a délimité un espace de raisonnement, un espace politique, un espace de sens et d'humanité qui n'est pas compatible avec Monsieur Macron. Alors moi, je pense qu'il ne le comprend pas et c'est pas grave, on n'est pas là pour le convaincre, mais il faut faire en sorte que tous ceux qui sont capables de comprendre ça le poussent dehors en fait. Voilà, pour moi, c'est un impératif collectif, c'est un impératif politique. Maintenant, Macron, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Et qu'on ne nous dise pas, oui, le chaos, ceci, cela. Monsieur Macron est incompatible avec un monde décent et avec l'avenir décent de la France.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous deux.
Merci
Merci.
à toutes les personnes qui nous ont suivis. On se retrouve le 23 ou le 30. On verra, en général, c'est le jeudi, en fonction des impératifs des uns et des autres, des autres émissions. Harold qui va prendre un petit peu l'air, parce qu'à force de faire passer le bac, philo à des gens qui sont branchés sur... les réseaux sociaux ou un certain type de télévision, il a beaucoup de mérite. notre cher Harold. Voilà. Merci à tous, bonne soirée et on se retrouve très vite dans 15 jours, je pense, ou 3 semaines ou plus tard. Salut à tous.
Bonsoir à tous.